Nous sommes dimanche soir, c'est l'heure du grand faux, mais ce soir, on commence avec Robert Doisneau. Let's go, Marco.
Il faut que tu retrouves ce regard-là. L'œil du tigre, mec. Oui, l'œil du tigre.
Bonjour, madame, bonjour, mademoiselle, bonjour, monsieur.
Quand on me parle de chasseur d'images, ça me fait tout doucement rire, parce que je ne suis pas un chasseur d'images, je suis un pêcheur d'images. Et ce n'est pas la pêche au lancer, hein, où on court après la truite. Non, c'est la pêche au cou. Mais moi, il n'y a aucun mérite, hein, il suffit d'être là. Être là.
Être là pour attraper la photo, disait Robert Doisneau. Être là sur le coup pour saisir l'instant. C'est aussi le credo des photos reporters de sport. Être là pour saisir une image à l'arrêt d'une activité qui n'est que mouvement. Voilà le premier défi. Le second consiste à nous faire voir ce qui est invisible dans le feu de l'exploit sportif. Car photographier le sport, c'est aussi révéler aux spectateurs des images qu'ils ne connaissent pas. Un monde parallèle où le sport se montre sous un autre jour, des images où se racontent d'autres histoires. À tout cela, il faut ajouter que la photographie et le spectacle sportif sont nés ensemble à la fin du 19e siècle et qu'ils n'ont cessé depuis de se nourrir l'un l'autre. Une histoire que connaissent bien nos deux invités du soir. Tout d'abord, il est galeriste, unique au monde en son genre. Il voue une passion artistique à la photographie de sport. Jean-Denis Walter, bonsoir.
Bonsoir.
Et soyez le bienvenu. À vos côtés, un pêcheur, Aurédie Doisneau, photo-reporter de sport. Il travaille pour l'équipe depuis plus de 15 ans, mais ça fait 30 ans qu'il fait ce métier. Alain Monique, bonsoir.
Bonsoir.
Et soyez le bienvenu, vous aussi. Vous êtes bien sur France Inter dans l'émission qui vous raconte la grande histoire du sport. Ce soir, l'art de cueillir l'instant, l'art de photographier le sport.
L'œil du tigre, Philippe Collin sur France Inter.
Alors, cette semaine en préambule, on débute avec un photographe britannique qui a magnifié la boxe sur ses pellicules argentiques. Il s'appelle James Fox, né en 1935. Il a passé toute sa vie autour des rings et dans les vestiaires pour tenter de saisir l'essence de la boxe à travers son œil de grand veneur. Le voici au micro de Frédéric Mitterrand. C'est en 1989, sur Antenne 2. James Fox, photographe de la boxe.
Quand moi je vais à la boxe, je trouve que souvent le public est beaucoup plus violent que les boxeurs. Et il y a un côté dans la boxe, naturellement, qui est un microcosme de la société. Il y a de l'érotisme, il y a du sang, les gens qui crient « tue-le », etc. Et j'ai vu des femmes à la boxe qui étaient dans un état vraiment comme un homme qui va voir du striptease. Et c'est sensuel, la boxe. Ce n'est pas seulement des arcades qui éclatent. Et j'ai essayé, moi, de capturer des moments intime de ces personnes-là. Je suis souvent des heures et des heures dans les vestiaires avec les boxeurs. Et de temps en temps, je suis au bord du ring, mais je passe beaucoup de temps à les accompagner pour les donner un peu plus d'amitié, de confiance, au lieu de les utiliser comme un objet.
Est-ce qu'il y en a qui ont refusé violemment l'image que vous donniez d'eux ?
J'ai eu le cas avec Joe Frazier. J'ai eu une situation superbe, j'étais avec Joe Frazier, il était complètement nu dans les vestiaires couverts de vaseline, il avait que ses pansements, et chaque fois que je voulais faire une photo, il me disait « watch it ». Alors fais attention, watch it, il est tout de même 2 mètres, un type énorme, et j'ai toujours l'image dans la tête, mais je ne l'ai pas mis dans l'appareil. Il y a des moments comme ça où il faut attendre et que le type te respecte. Mais après un certain temps, même avec Mohamed Ali, il comprend, mais ils sont un peu agressés par les médias. Il faut que vous preniez une autre approche.
I'm on a let's you go, now you won't see me around. See, I want it then, and I don't want it now.
It's a death-defying act you won't believe. Now it's the last in line for the newborn seeker.
Lost Day, un titre signé Other Lives. Voici maintenant l'histoire du dimanche soir. Il est mort à l'âge de 95 ans, en août 2004. Il fut un témoin affûté du XXe siècle, où il a tout traversé. Henri Cartier-Bresson fut sans aucun doute l'un des plus grands photographes de son temps. Et il a même photographié le sport, oui, notamment une série exceptionnelle au Vélodrome d'hiver à Paris au tout début des années 50. Il est l'inventeur, dit-on, dans l'art de photographier, de l'instant décisif. Notion essentielle à la photographie de sport où il faut avant tout saisir l'instant de l'exploit, l'exploit qui ne se rejoue jamais. Mais commençons par définir ce qu'est une bonne photo dans l'esprit de Cartier-Bresson.
Pour moi, ce qui compte, c'est le temps. Tout est impermanent, rien n'existe à perpétuité, tout change de seconde en seconde. Et dans le reportage photographique, qui est notre journal de bord, il n'y a que l'instant qui compte. Il faut lier et l'émotion que donne un sujet, et la joie de l'organisation plastique, l'intuition du nombre d'or, une rigueur dans l'équilibre des formes. Enfin, c'est pour moi la base. Et puis tout ce qui vient de l'inconscient, on n'en sait rien, c'est l'inconscient. La planche de contact, c'est un peu le divan des psychanalystes. C'est aussi une sorte de sismographe qui enregistre l'instant. Tout est écrit. Ce qui nous a surpris, ce qu'on a attrapé au vol, ce qu'on a raté, ce qui a disparu. Ou un événement qui se développe jusqu'à l'image qui est un épanouissement.
Jean-Denis Valter, vous êtes galeriste spécialisé en photos de sport, unique en son genre, au monde, on y reviendra tout à l'heure. Henri Cartier-Bresson vient de définir ce qu'est une bonne photo selon lui. Il dit qu'il faut donc lier l'émotion qu'offre le sujet à la joie de l'organisation plastique. Est-ce que cette définition s'applique, Jean-Denis, à la photographie de sport ?
Complètement. Mm-hmm. Le sport est en fait un thème, mais les règles qui s'appliquent à la photographie s'appliquent de la même manière. À la fois la construction graphique d'une image et sa beauté, c'est ce qui va vous attirer. Et ensuite, c'est l'émotion qu'elle génère. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Mais il est clair que vous pouvez avoir des photos de plusieurs photographes du même moment et il y en a une qui va se dégager. Pourquoi ? Et il y aura consensus, ce sera celle-ci la bonne, parce qu'elle a ces deux dimensions.
Est-ce que c'est là que l'inconscient entre en jeu, qu'évoque Cartier-Bresson, le divan, le l'impensé du photographe
de
sport ?
Oui, et puis je pense qu'en sport, mais Alain en parlera mieux que moi, il y a aussi un peu la chance, le miracle. C'est-à-dire que les choses, tout d'un coup, se mettent en place, et selon que vous êtes placé à gauche, à droite, un peu en retrait, vous aurez la possibilité de faire quelque chose qu'un concurrent ou un confrère ne pourra pas faire. Donc, c'est vraiment la jonction de tout ça qui va faire qu'une photographie est une bonne ou grande photographie.
Anna Monique, vous êtes-vous donc photo-reporter de sport ? Ça fait 30 ans que vous exercez au bord des stades, au bord des terrains. Vous avez couvert de nombreuses compétitions internationales pour des agences et pour l'équipe, évidemment, le grand quotidien l'équipe. Avant tout, comment est-ce qu'on devient photographe de sport ? Est-ce qu'on y vient par la photo ou par le sport, Alain ?
On y vient par la passion.
Oui.
La passion, moi c'était la passion du sport quand j'étais tout petit. Et puis ensuite...
Passionné par le vélo.
Passionné par le vélo.
Et le Tour de France.
Le Tour de France. Mon père m'a amené m'amener à quelques kilomètres de sa maison où il était né, dans les Pyrénées. Il m'a amené sur le col de Peyresourde et donc j'ai vu tous les
grands... Le tour passe très souvent.
Voilà, ouais. Donc j'ai vu tous les grands champions passer.
Et là, vous avez dit quel âge ?
Voilà, je devais avoir 3 ans.
D'accord.
Et ensuite, j'ai découvert la photo à l'âge de 12 ans. Et puis un beau jour, j'ai décidé de faire des photos de sport et j'ai commencé par les...
Et de toute votre vie, du coup. Mais ça veut dire que gamin, vous preniez des photos du Tour de France déjà sur ce col-là, par exemple.
Oui, oui.
Vous en avez gardé des photos ou pas ?
Ouais, je sais même plus où elles sont, mais, mais je les ai dans ma tête aussi, ces photos.
Ah, mais ça, c'est beau. C'est beau de les avoir dans la tête,
voilà.
Évidemment.
J'ai toutes ces images, j'ai tout ce relief, ces sportifs qui souffraient. C'était incroyable.
Jean-Denis, puisqu'on parle des parents, je vais redire que vous êtes un cas à part. Vous avez ouvert à Paris une galerie d'art consacrée à la photo de sport, avec des photos numérotées, signées par les auteurs, à tirage limité. Voilà, une vraie galerie d'art consacrée à la photographie de sport. Vous avez un long parcours aussi dans ce domaine, en presse écrite et puis ensuite dans la galerie. Et vous dites souvent que c'est un peu grâce à votre mère que vous êtes arrivé jusqu'ici. Comment ça se fait, Jean-Denis ?
Parce qu'elle était iconographe, elle travaillait pour l'édition principale. Et en fait, de tout temps, il y avait souvent à dîner des photographes qui partaient quelque part, qui revenaient de je ne sais où. Et j'ai baigné un petit peu là-dedans, passionné de sport. Donc c'est un peu comme ce qu'Alain voulait. C'est comme si j'avais réuni mes deux passions. J'ai d'abord commencé une carrière dans la photographie, donc dans des magazines et, qui n'étaient pas forcément liés au sport. Et à partir de 99, quand je suis arrivé à l'équipe, j'ai retrouvé la maison, en fait.
Oui, oui.
Et je suis d'abord devenu directeur de la photographie de l'équipe magazine, puis rédacteur en chef avec Jean-Philippe Leclerc. Et ça a toujours été le moteur de ma passion, la photographie et le fait et le sport, ma spécialité. Donc ma culture s'est construite, le réseau, les photographes du monde entier. Et voilà. Et en fait... passionné de photographie, j'allais souvent dans les grandes foires, les expositions. Je voyais jamais grand-chose sur le sport, alors que je voyais régulièrement
d'excellentes photos,
des photographes où je me disais, mais ça a un potentiel incroyable. Mmh. Et donc l'idée a cheminé, et en quittant l'équipe
en 2012,
j'ai mis un an de préparation et j'ai ouvert la galerie.
Cette galerie unique au monde,
voilà, hein,
où on peut acheter des photos de sport signées par les auteurs, évidemment.
Tout à fait.
Ce qui est passionnant, Jean-Denis, c'est que en effet, la photographie, l'art de la photographie et le sport sont nés ensemble à la fin du 19e siècle et qu'ils ont passé tout le siècle à se nourrir l'un l'autre. On dit ça, mais il faut bien avoir conscience que l'imaginaire du sport est né aussi par les photographies qu'il y avait dans la presse écrite au début du 20e siècle. Mais il a fallu que la photo s'adapte aussi au sport, notamment pour les altitudes, pour la vitesse. Et tout au long du 20e siècle, ces deux activités se sont nourries, c'est assez exceptionnel en réalité.
Oui, la construction des souvenirs, parce qu'en fait, une photo... Le Cartier-Bresson en parlait tout à l'heure, voilà, l'instant il est figé. Et donc ça vous ramène une photographie, le fait que le temps s'est arrêté un instant. Et en fait c'est un instant qui a généré de l'émotion, qui représente quelque chose pour vous. Et donc forcément le sport, c'est l'histoire du sport. Et la photographie en est le porteur en fait.
Alain, on parle de l'instant. C'est vrai que c'est un métier particulier. Il faut saisir le moment d'un exploit sportif qui aura une durée dans le temps. Hors micro, juste avant que nous commencions, vous m'avez raconté un truc extraordinaire. Vous avez pris une photo d'une finale de 100 mètres à Londres, au JO, en 2012. La photo, est-ce qu'on peut la décrire en quelques mots déjà ? À quoi elle ressemble cette photo ?
La photo, on voit Bolt en plein effort à l'arrivée du 100 mètres. On est à peu près à 10 mètres de la ligne d'arrivée.
Et, c'est Usain Bolt, hein, donc il va être champion olympique.
Usain Bolt, il a à peu près 3 mètres d'avance. Et sur ce coup-là, je m'étais positionné sur le côté. Je dois être à 5-6 mètres de lui. Et j'avais prévu de faire un cadrage très serré qui englobait à la fois Bolt, mais aussi
ses poursuivants.
Et
qu'on voit sur la photo d'ailleurs.
On voit sur la photo. Et puis à ce moment-là, au bout de 50 mètres, Bolt il a déjà une avance considérable.
Mais racontez bien, parce que votre œil gauche, c'est votre œil de visée. Non, c'est important, parce que votre œil gauche, c'est votre œil de visée.
Alors mon œil gauche, effectivement, c'est mon œil de visée.
Donc l'œil gauche est dans l'objectif de l'appareil photo.
Il est dans l'objectif, et mon œil droit, il regarde l'écran géant. Et là,
vous voyez quoi ?
Et là, je m'aperçois qu'il y a un écart gigantesque
entre Bolt et ses poursuivants.
Et là, en l'espace de... Parce qu'il arrive vite, hein, Bolt, il est recordman du monde du 100 mètres.
9,58. Voilà.
Et là, ça va très très vite. Et donc, je change mes réglages.
En deux secondes ?
Oui, même moins. Et
bah oui.
Et au final, j'arrive à voir Bolt qui est
une photo extraordinaire,
qui est en tête avec. Avec ses poursuivants derrière. Alors j'avais rajouté une difficulté technique, c'est que je voulais montrer la vitesse, donc j'ai baissé ma vitesse sur l'appareil photo pour avoir ce qu'on appelle un filet, c'est-à-dire où on voit le mouvement que crée le.
En gros, on est net au premier plan et flou au second plan.
Voilà,
aussi,
flou au second.
Donc le public est flou et voilà. On voit comme s'il y avait un mouvement en bande dessinée, par exemple. Voilà, on voit le trait qui s'écarte.
Exactement.
Mais faut bien comprendre. Alain, que si vous n'aviez pas eu cet œil droit qui mate l'écran géant, vous n'auriez pas eu, avec le cadre choisi, les poursuivants dans le cadre.
Non,
c'est ça qui est extraordinaire quand même.
Non, parce que je les vois, enfin, ils arrivent comme des balles, quoi. Ça va très vite et comme je suis pas très très loin d'eux, je n'ai aucun recul et aucun moyen de.
Mais c'est l'instant. C'est
voilà,
être là, comme dit Doineau. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous dites, en fait, je vois sur l'écran que je suis à la rue, il faut que je change mon cadre, et à l'arrivée, vous avez tout le monde dans le cadre.
Oui, voilà. Ouais. Et puis bon, après c'est une habitude. Après c'est une.
Jean-Denis, c'est quand même incroyable ce moment de photographe, parce que c'est pas rien.
C'est vrai, c'est vraiment la petite histoire de la grande. Et c'est la petite histoire et ça raconte qu'en fait la photo, elle est exceptionnelle parce qu'en fait elle raconte la différence qui fait. C'est une meute de gamins qui court après l'adolescent.
Oui.
Et donc ça, c'est s'il était resté sur son cadrage de base avec Bolt en pleine action de profil, ça avait pas grand intérêt.
Oui.
Il fallait ça.
On aurait eu Bolt tout seul.
Au départ, il pensait qu'il y aurait vraiment, que je serais très très serré, donc il aurait eu tout dans son cadre. Mais là, il fallait vraiment prendre cette décision. Et du coup, la photo, elle est magnifique parce qu'elle raconte ça. Elle raconte la domination d'un athlète sur un sport.
Pendant une décennie. Avec une photo, on comprend ça. Et quand je racontais en introduction qu'elle racontait d'autres histoires, les photos, c'est qu'effectivement, un 100 mètres, ça dure très peu, 9,58. Et on voit effectivement. À la télévision, à ralenti, etc. Mais l'image arrêtée, elle montre la puissance de Bolt. C'est qu'il y a une telle différence entre lui et ses poursuivants que seule la photo dans un cadre permet de montrer ça, Jean-Denis. C'est incroyable.
Complètement. Et même, il a le visage tourné.
Oui, il a le visage tourné.
Comme s'il regardait un peu derrière lui, c'est qu'il est facile qu'on fasse ça.
C'est extraordinaire. Mais Alain, justement, quand on prépare comme ça une finale de 100 mètres à l'affût de son appareil photo, est-ce qu'on se prépare beaucoup toute la journée? Est-ce qu'on va humer la piste? Est-ce qu'on est autour de ce moment-là? Est-ce qu'on y pense tout le temps? Parce que ça dure 9,58 et on ne peut pas demander à Bolt de recourir.
Non.
Genre, excuse-moi Bolt, j'ai pas le temps de la prendre, tu la refais. Ça marche pas. Comment on fait Alain?
Bah déjà, c'est des mois de préparation. On s'imagine cet instant, on le pense.
On repère la piste un peu ou pas?
Alors le jour du 100 mètres, le 100 mètres, il est à peu près à 22h30.
Mm-hmm.
Et nous, on y est déjà vers 6-7 heures du matin, on repère la piste. En fin de compte, cette piste où cet espace qui est large de 60 centimètres, on va y marcher dessus toute la journée, on va repérer les endroits où on va se positionner.
On le repère en fait, on fait du repérage.
Voilà, on fait du repérage et moi il m'arrive jusqu'à 5 minutes avant cette course, j'ai imaginé toutes sortes d'emplacements, mais il m'arrive 5 minutes avant de changer.
Tout changer.
De me dire, ben non, finalement, je le sens pas comme ça, je vais faire ça.
Est-ce qu'il y a une concurrence entre vous? Parce qu'on imagine bien, je sais pas, Cartier-Bresson qui prend une photo dans la rue, voilà, il a son instant décisif, il y pense. Vous, c'est très différent. Il s'agit quand même d'avoir la meilleure photo, de faire la une du journal. Vous êtes nombreux à accréditer autour de la piste. Est-ce qu'on se regarde? Est-ce qu'on s'hume? Est-ce qu'on se défie? Est-ce qu'il y a une concurrence entre les photographes de sport?
On s'observe. Mais.
On se renifle.
On se renifle, mais. Mais chacun pense à sa propre photo et en fin de compte on est dans notre bulle. Et pour réussir une bonne photo d'un 100 mètres, il faut vraiment s'isoler du monde extérieur. Il faut pas penser que ce soir-là il y a des millions de téléspectateurs, il y a des millions de gens qui vont être qui vont
c'est
avoir
votre regard à vous
sur cette ligne.
Oui.
C'est voilà.
C'est le regard d'Alain Mounic.
C'est pour ça que toute la journée on va la traverser, on va passer dessus,
on cherche à travailler le bon poisson. Jean-Denis, j'ai lu que vous disiez souvent que les photos de sport me parlent et je sais les entendre. Qu'est-ce que ça veut dire, Jean-Denis Walter, ça?
C'est comme un critique gastronomique qui vous goûte un plat et qui ne saurait pas faire la cuisine.
Oui.
En fait, il y a des photos et souvent j'ai des propositions de contribution à la galerie. Donc des photographes, très bons photographes, de sport ou pas de sport, mais qui ont fait un travail sur le sport, qui veulent me proposer. et c'est presque intuitif, c'est-à-dire que je sais tout de suite si je vais pouvoir, si je vais prendre. C'est comme... Ça me raconte quelque chose que je vais pouvoir transmettre. Sinon, même si c'est une excellente photo, que ça ne remet pas en cause le travail de l'auteur, je vais dire, ben non. Parce que si je ne sais pas en parler, je ne pourrais pas la vendre.
Jean-Denis, qui dit galerie dit exposition.
Oui.
Qui dit exposition dit vente, donc acheteur. Qui achète des photos chez Walter? Est-ce qu'il y a un acheteur type de photographie de sport?
Pas vraiment.
Très différent. Est-ce que des femmes en achètent, par exemple?
Oui.
Ah, très intéressant.
Et pas seulement pour offrir. Uh-huh. Ça arrive. C'est ouais. La notion de cadeau est assez importante parce qu'en fait, en se regroupant, il y a des gens qui sont pour un anniversaire, pour quelqu'un, c'est un cadeau merveilleux, un tirage, en fait, c'est pour toujours.
Bien sûr.
Donc, mais oui, des femmes en achètent, bien sûr. Même 50% de mes acheteurs sont des
d'accord,
femmes.
D'accord.
Tous les âges. Plutôt, quand même, il faut être un petit peu installé, quand même, parce que bon, c'est pas des prix, c'est pas du poster. Hein. Mais.
Oui. ça coûte un peu d'argent, c'est ça que vous voulez
voilà.
dire.
Voilà. Ouais. Mais c'est ça peut être aussi des cabinets d'avocats, des parce que ça, c'est dans le hall. Enfin, il y a tout, mais il y a absolument tout le. Il n'y a pas d'acheteur particulier.
Il y a un public très divers.
Oui.
Jean-Denis Walter, a priori.
J'ajouterais juste.
Allez-y.
Que souvent, les gens vont rentrer dans la galerie par la passion du sport et après se dire que ça pourrait être vraiment un plaisir d'avoir un tirage original d'une matière qui les concerne.
D'accord. Donc là, on revient à l'art.
Il y a beaucoup de gens qui démarrent des collections chez moi pour ça.
A priori, une photographie de sport, Jean-Denis, elle est figurative. Hein. On prend la photo du Usain Bolt qui arrive à la finale du 100 mètres. Mais elle est parfois dans une forme d'abstraction. Il y a un photographe italien que j'aime beaucoup qui s'appelle Mario Giacomelli, qui est un photographe qui prenait des photos de la campagne italienne et qui était au bord de l'abstraction. Il y avait notamment les sillons des moissons qui laissaient à penser que, effectivement, si on regardait de près, on pouvait voir la campagne italienne. Mais en prenant un peu de recul, tout d'un coup, ça devenait abstract. Et on appelait ça l'abstraction lyrique. Et vous m'avez montré des photos de chez vous, Jean-Denis, notamment une photo de Formule 1, d'une bagnole sous la pluie, où on revoit, je trouve, les tracés de Giacomelli de la pluie sur la piste. Et effectivement, il y a un feu rouge comme ça de la bagnole qui est en train de ralentir. Et on ne sait pas trop ce que c'est. C'est à la fois captivant. On regarde un peu plus près, on voit que c'est de la bagnole, de la F1. Mais c'est abstract. C'est-à-dire que tout à coup, c'est magnifique.
En fait, une photographie, c'est toujours une bonne photographie. Le mélange d'un propos fort et d'une forme esthétique. Parfois, ça va tirer plus vers le propos, c'est-à-dire que c'est l'histoire qui va donner de la force à la photo. Parfois, c'est son esthétique. Et effectivement, il y a certaines photographies, on est presque dans une œuvre abstraite, une œuvre esthétique, où l'émotion, elle est esthétique. Et la photo à laquelle vous faites allusion est une photo de Lewis Hamilton au Grand Prix du Japon, faite par
Paul Henri. Grand pilote de F1.
Paul-Henri Caillé en 2009, je crois. Et effectivement, le ciel, la lumière est presque noire, il fait très gris. La route qui ruisselle avec des traînées, des formes un petit peu bizarres, et puis juste ce feu rouge qui s'en va dans la nuit, on a, sans faire vraiment attention, on n'en peut pas savoir de quoi il s'agit, mais c'est très beau, comme ça, d'emblée.
Et on est happé par cet univers un peu obscur, mais qui est pareil, une sorte de...
Plus par l'esthétique,
oui,
en fait,
une
de
sorte d'abstraction lyrique, d'ailleurs.
Hein,
c'est presque là aussi inconscient pour revenir à Cartier-Bresson. Alors, il est 18h35 sur Inter, on va poursuivre notre exploration de la photographie de sport, mais pour l'instant, c'est le retour de l'orchestre, emmené cette fois par Clara Luciani. Le titre joué, Ma sœur, ainsi soit-il.
Ma sœur, nous avons des cœurs, si à moi et chaque de foi. Je tiens dans ma main ton poing serré et rien ne peut nous résister puisque nous l'avons décidé. Personne n'a jamais dit que ce serait facile, mais je serai là. chaînes avaient relié invisiblement nos poignets. Le jour où nous sommes nés. Alors si tu coules, je coule aussi. Et je tiens bien trop à la vie pour que ça puisse être permis. Personne n'a jamais
position du photographe qui est ambiguë quelque part, mais qui est passionnante. C'est le photographe est sur la touche. Si on prend l'exemple du photographe de sport, il est ni sur le terrain ni dans les tribunes. Il est sur la touche. Et je crois que tout photographe est dans cette situation. Il faut pas être entièrement concerné par le sujet, sinon on laisse l'appareil et on participe. Il faut pas être non plus étranger. Donc cette position, c'est une position de solitaire, je pense déjà. Et effectivement, ça peut rendre certaines relations qui seraient très simples autrement, les rendre plus difficiles.
Philippe Collin, sur France Inter.
Savoir où se placer, c'est tout l'enjeu de l'exercice. Pour un photographe de sport, être à l'affût, avoir l'instinct d'un chasseur, savoir attendre et ne pas rater au moment précis, car pas de seconde chance. C'est l'instant qui prime, il faut être le témoin aiguisé d'une fugacité. Enfin, il faut aussi savoir regarder hors champ pour saisir l'à côté. Photographier le sport, c'est une excellente école d'apprentissage. Et d'ailleurs, ce fut l'une des universités d'un des plus grands photographes contemporains.
Dans ses jeunes années, le photographe Raymond Depardon a immortalisé 6 Jeux Olympiques. Tokyo, Grenoble, Montréal, Munich, Mexico et Moscou. Autant d'événements qui lui ont permis d'aiguiser son regard.
J'ai beaucoup appris, parce qu'on est cantonné à une place, on ne peut pas bouger. Et puis devant soi, on a comme sujet des gens qui font une action ponctuelle, rapide, dont on ne sait pas quel va être l'enjeu. Vous ne pouvez pas vous amuser à faire l'esthète ou le grand photographe artistique, là, non, non, non. Parce que c'est les expressions qui comptent.
Nadia Comaneci, Jean-Claude Killy, les terroristes des JO de Munich... 20 ans d'olympisme raconté en 47 clichés, mais celui dont Raymond Depardon est le plus fier, c'est cette photo prise à Mexico en 68. À la surprise générale, Bob Beamon vient de battre le record du monde de saut en longueur.
Les sauts, c'est toute la journée, les sauts en longueur. Donc on ne fait pas tout le temps attention. Et puis d'un seul coup, il s'est passé un truc incroyable, c'est que le record a été battu presque d'un mètre, quoi. Moi, j'ai couru, et puis j'ai vite photographié Beamon. Et puis, ce qui est extraordinaire, c'est que d'un seul coup, il y a un orage qui a éclaté. Comme si les dieux avaient été en colère.
Jean-Denis Walter, je rappelle que vous êtes galeriste spécialisé dans la photo de sport. Raymond Depardon vient d'évoquer ses souvenirs olympiques. Depardon est devenu Depardon, il a élargi la focale, il est devenu un artiste contemporain majeur du 20e et du 21e siècle. Mais il existe des photographes de sport très très importants qui se sont spécialisés dans cet exercice. Notamment un Britannique qui s'appelle Jerry Cranham, qui est né en 1929, si je ne dis pas de bêtises. Qui est-il ? Qui est ce photographe hors pair, Jean-Denis Walter ?
En fait, Jerry Cranham, au départ, c'est un athlète qui a arrêté assez rapidement sa carrière parce qu'il s'est blessé gravement. Il est devenu coach et il pratiquait la photographie de manière éclairée, je dirais, à côté. Et il l'a utilisé au début pour son travail. C'est-à-dire qu'il faisait des photos de ses athlètes, il corrigeait une posture, il leur montrait ce qu'il fallait faire.
Il découpait le mouvement en photo.
Exactement.
Et il leur montrait les défauts ou les avantages,
les adversaires. Voilà, ce qu'il faut que tu corriges, regarde, là tu t'es affaissé, là, nan, nan, nan.
Exactement.
Et en fait, au bout d'un certain temps, des amis disaient, mais ça, c'est vraiment bien ce que tu fais. Et puis il a commencé à faire des photos sur les terrains, et puis a commencé à faire de la photo de sport. Et après, son ascension a été incroyable. Et il a commencé à travailler pour les plus grands magazines, et il est devenu un des plus grands photographes de l'époque, et même, je dirais, le précurseur de la nouvelle vague des photographes de sport anglo-saxons, où c'est une école formidable. Et il est surnommé par tous les jeunes, the pioneer, c'est-à-dire le
pionnier.
Le pionnier.
Le précurseur.
Et en fait, ce qui était très intéressant dans son travail, c'est qu'il y a ajouté une dimension quasi sociale. C'est-à-dire que Jerry Cranham raconte le sport, mais il raconte aussi son époque. Il raconte la working class, il raconte les villes, il raconte l'évolution de l'Angleterre. Et donc, c'est des photographies qui, à la fois, sont des photographies de sport, mais vous racontent, sont des photos d'histoire.
On prend un exemple, Jean-Denis. Il y a une photo que vous aimez beaucoup de Jerry Cranham.
Une photo qui s'appelle Highbury, où donc c'est dans les années 70, dans le vieux stade d'Arsenal.
Donc, c'est un match de foot Arsenal contre
un match
Leeds.
De foot Arsenal-Leeds. Mmh. Et il y a un plan où, en fait, tout le fond de la photo, c'est des milliers de visages qui se détachent chacun. Ça
pourrait
être
la foule, hein, c'est les supporters.
Ouais, c'est la foule,
c'est
des supporters.
Gradins.
Et donc, ça pourrait sembler à être une photo faite pour un jeu, genre Où est Charlie ?
Oui, absolument.
Mais donc, elle est absolument incroyable, parce qu'en plus, en Angleterre, à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais les photographes étaient dans des fosses, donc vraiment un peu enterrés, donc au ras
de la pelouse.
Et le premier plan était constitué par le gazon. Et donc, ça donne vraiment un effet graphique extraordinaire. Mais ce que j'aime dans cette photographie, c'est que on voit un seul policier. Il regarde le match, les mains dans les poches. Oui. Il n'y a pas de barrière. C'est la tribune du Cloquen derrière lui, Arsenal, qui contenait, je crois, 15-16 000 personnes. Il n'y a pas de barrière. Et il n'y a pas qu'un steward en t-shirt, en gilet orange, qui regarde s'il n'y a pas de débordement.
Et c'est que le flic est très cool. Il regarde, il y a un but, hein, faut le dire. Il y a un ballon qui va rentrer dans le but.
Il a les mains dans les poches. Enfin, c'est même plus décontracté.
Oui,
c'est qu'il profite du truc.
Oui,
et
la photo est
cette
magnifique.
Photo, ça raconte une période aussi apaisée. Donc en fait, c'est une photo de sport, mais qui raconte aussi l'époque un peu baba cool de vous déjeuner. 70.
Et
donc, le travail de Cranham, c'est souvent ça. C'est le sport, mais à la fois le contexte et l'histoire.
Alain Monique, je rappelle que vous êtes, vous, photographe de sport depuis plus de 30 ans. Vous travaillez pour l'équipe, notamment. On a parlé du Usain Bolt que vous avez pris en photo à l'arrivée du 100 mètres à Londres en 2012. Photo magnifique. Depardon disait qu'il faut savoir regarder à côté, ou ce que fait Cranham ici, raconter la société autrement. Usain Bolt, vous l'avez côtoyé autrement. Vous vous êtes assorti du stade, vous l'avez suivi en Jamaïque. Et il y a une photo que vous avez prise qui est magnifique, où il est entouré d'enfants, ce grand champion Usain Bolt, où d'ailleurs les enfants sont agrippés à lui. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette photo-là, qui est aussi une photographie de sport faite par un photographe de sport que vous êtes ?
Alors c'était en juin 2009, c'était lors des sélections jamaïcaines, et puis le journal L'Équipe nous envoyait un reporter qui s'appelait Jean-Christophe Bastignac et moi. Nous sommes retrouvés à Spanish Town, c'était à peu près à une vingtaine de kilomètres de Kingston.
Jamaïque, hein.
C'est un des quartiers les plus pauvres de la Jamaïque. Et on a retrouvé Usain Bolt qui était entouré d'enfants malades, qui a passé son après-midi à jouer au domino. Ça a duré 2 heures, et pendant 2 heures, j'ai tourné un peu autour, j'ai fait quelques images, j'ai essayé d'être le plus discret possible. Et il faut dire que la force chez cet athlète, c'est que le lendemain, il avait un moment crucial de sa carrière, qui sont les sélections jamaïcaines, qui sont vraiment très difficiles. Il avait en face lui Asafa Powell, et il était, on peut dire que c'était la période où il était au top de sa carrière au niveau sportif, parce que l'année précédente, il avait
2008 les JO,
il avait été révélé à Pékin avec les Jeux Olympiques, et un mois et demi plus tard à Berlin, il va
championnat du monde.
Il va gagner les deux records sur les championnats du monde, 100 mètres et 200 mètres, qui n'ont jamais été égalés. Et il est détaché de tout ça. Pour lui, ça lui pose aucun problème de passer une après-midi avec des enfants
et jouer au domino.
Jouer au domino.
Jean-Denis Vacher.
Je pourrais parler de cette photo aussi que j'adore. Il y a une qualité qu'Alain a eu là-dessus, et pour faire cette photographie qu'il faut avoir, c'est que quand on est dans des moments comme ça, en matière de photojournalisme, il faut être un peu comme une mouche sur un mur, présent, mais pas visible. Si les enfants ont le regard objectif sur l'objectif, et Bolt aussi, la photo, elle a plus vraiment d'intérêt, oui. On est dans la com.
Bien sûr.
Là, en fait, le fait qu'ils disparaissent, qu'ils se fassent oublier, fait qu'on est dans un moment d'un naturel absolu, et tout ce que raconte Alain, là, sur le fait qu'il est très décontracté, qu'il donne ce temps généreusement aux enfants, mais de manière naturelle, c'est raconté par l'image. Ce serait pas le cas s'ils posaient tous.
Et, oui.
Et il faut donc arriver à disparaître.
À être la mouche sur le mur. Oui. Hein. Jean-Denis, quand on regarde l'ensemble des photographies de sport, on a le sentiment qu'on pourrait raconter tout le XXe siècle à travers les photographies de sport. Les deux guerres mondiales, la décolonisation, la guerre froide, Hitler, Staline, y compris des choses récentes. C'est assez fascinant de voir comment le sport est imbriqué dans la société et on la voit à travers les photos de sport. Ce sont des témoignages de l'époque à chaque fois. Et donc, il y a une photo que vous aimez beaucoup, qui est une photo assez étrange. Vous pouvez nous la décrire et raconter un peu
c'est
ce que
c'est. C'est en fait dans un stade de Berlin, le stade de l'Union Berlin, qui est un des deux clubs de la ville, hein, qui joue en Bundesliga cette année. Et en fait, c'est un soir, tout le public est là, chacun a une bougie, une chandelle en main.
C'est Noël, hein,
c'est Noël, voilà. Et il n'y a pas de match. Mm-hmm. Ils se rassemblent juste pour chanter des chants de Noël et des chants à la gloire du club. Cette histoire, Harald Oswald a suivi ce club, l'Union Berlin, pendant une trentaine d'années.
Oswald, c'est le photographe.
Harald Oswald, fondateur de l'agence Hotzkreuz, une grande agence allemande. Et en fait, il les a suivis au départ, avant la chute du mur, dès 86-87.
Parce donc, ex-RDA.
Ex-RDA. Mm-hmm. Il travaillait un peu en douce pour les journaux de l'Ouest, pour le Spiegel, pour Stern, et qu'il lui avait dit, Harald, on croit que savoir qu'il y a des problèmes de hooliganisme en Allemagne, est-ce que tu pourrais faire quelque chose? Et il va faire un derby Union Berlin, Dynamo Berlin, qui était le club de la Stasi, et l'Union Berlin étant un club un peu insolent, et il assiste à une bataille rangée, enfin un truc de dingue. Le reportage est terminé, mais le contact qu'il avait pris avec les fans de l'Union, très bon contact, a fait qu'il a continué à les côtoyer et il les a suivis pendant des années en déplacement à la maison. Et en fait, à travers ce reportage de 30 ans, il raconte l'histoire de l'Allemagne, toute l'histoire.
Oui.
La chute du mur, la réunification, les temps difficiles pour la jeunesse est-allemande qui est confrontée à l'Ouest, où ils sont pris pour des péquenots, où ils essayent de garder un peu leur fierté, leurs racines. Et cette photo, il faut savoir que l'Union Berlin, encore aujourd'hui, tous les fans sont est-allemands ou enfants d'est-allemands. C'est une manière de respecter leurs racines. On est vraiment
cas,
dans la
passé.
Notion...
On est
vraiment dans la notion de club.
Oui, oui.
Ce que c'est qu'un club, c'est une communauté. Et en fait, ça, c'est très très bien raconté. Et sur un seul
reportage...
La photo
est magnifique. Hein.
Sur un seul reportage, il raconte en fait 30 ans d'histoire de
absolument.
L'Allemagne.
Et d'Europe, du coup, évidemment. Alain Monique, est-ce qu'il y a une quête du Graal? Est-ce qu'il y a une photo ultime en tant que photo-reporter de sport? Est-ce qu'il y a une chose qu'on a dans l'objectif qu'on aimerait saisir, attraper?
Peut-être dans la boxe, un chaos parfait, enfin une image très très bien composée et c'est sûrement ça, c'est la boxe.
Vous l'avez déjà fait la boxe en photo ou pas?
Oui.
Mais vous n'y avez pas. Je l'ai
même pratiqué pour essayer de comprendre ce que les boxeurs allaient anticiper, enfin les coups qu'ils allaient porter. Tous les plus grands écrivains ont écrit sur la boxe. C'est pas pour rien, quoi. C'est
et les photos de sport aussi sont aussi les, faites de.
Pour moi, les plus belles photos
de
sport
boxe,
sont issues de la boxe.
Eh oui.
Mais c'est oui.
J'en donnais un mot sur la boxe et le sport, c'est vrai que c'est quelque chose d'extraordinaire.
Les deux photographies les plus connues de l'histoire du sport, c'est deux images de Neil Leifer, très grand photographe américain, qui a fait toute sa carrière à Sport Illustrated, la photo à Ali Liston où Sonny Liston est couché à ses pieds et il continue de le haranguer parce qu'en fait il est tombé trop tôt, et lui a volé sa gloire. Et puis l'autre photo, qui est peut-être pour moi la photo parfaite, donc celle qu'Alain aimerait faire, c'est la Ali Williams, vue du ciel, où la géométrie des corps entre Ali qui lève les bras et Cleveland Williams qui est au sol est parfaite. La symétrie, c'est que dans sa forme, elle est parfaite, et dans ce qu'elle raconte, c'est l'instant décisif, c'est le chaos. Donc c'est la photographie. Si je devais décider quelle est la plus grande photographie de l'histoire du sport,
Walter va parler.
Ce serait celle-ci.
Celle-ci.
Oui.
D'accord, très bien. Redites le titre et le photographe.
Cleveland Williams, Ali Williams par Neil Leifer.
Très bien. Et c'est pas un poster, elle voit un peu d'argent, c'est ça?
Un petit peu.
En tout cas, merci beaucoup à vous deux d'être venus ce soir. C'était passionnant de vous écouter, de parler de photographie de sport. Je rappelle que vous pouvez vous rendre donc à la galerie de Jean-Denis Walter qui va déménager à partir du mois d'avril. Elle sera à Joinville-le-Pont,
oui,
tout près
87.
Du club de l'Aviron. C'est bien ça?
Oui. Tout à côté de l'aviron de Joinville, pas très loin de l'INSEP, donc sur sa place.
Voilà, à sa place, c'est excellent endroit.
87 quai de la Marne, sur les quais.
Voilà. Et bien sûr, vous pouvez lire l'équipe tous les jours, vous croiserez les photos magnifiques réalisées par Alain Monique. Merci beaucoup à vous deux. Ne quittez pas l'écoute, car voici le Give Me Five de Joy Raffin.
L'œil du tigre.
Bonsoir Joy.
Bonsoir Colin, bonsoir à tous.
Alors que trouve-t-on dans ton Give Me Five ce soir?
Eh bien on va commencer avec un big up. Un big up aux footballeuses espagnoles qui après des mois de grève, je vous en avais déjà parlé plusieurs fois ici, eh bien les filles de la Roja ont enfin signé cette semaine la première convention collective de l'histoire du football féminin espagnol. C'est même l'une des premières du monde. Alors le texte, soutenu par les clubs et les syndicats aussi, établit notamment que les joueuses toucheront un salaire minimum de 16 000 euros brut annuel, auront des congés payés, congés maternité ou encore des garanties en cas de blessure. Alors certes, on est encore bien, bien, bien loin des droits et des sommes que reçoivent leurs homologues masculins, mais leur grève n'aura pas été vaine, et en termes d'égalité femmes-hommes, c'est toujours bien quand les choses avancent, même de petits riens.
Et cette convention a été nommée Convention de l'égalité. C'est un progrès en effet considérable dans le monde du sport. Quoi d'autre, Joy?
Eh bien, connaissez-vous, alors je vais essayer de ne pas écorcher son nom, Srinivas Gowda?
Non.
Eh bien, vous devriez. C'est un athlète indien de 28 ans qui, au début du mois, lors du Kambala, donc c'est une course traditionnelle indienne, aurait couru 142 mètres en 13,42 secondes. Mmh. Alors le Kambala a la particularité de se dérouler non pas sur une piste d'athlétisme, mais dans une rizière. Une rizière dans laquelle les participants sont tirés par des buffles. Oui.
Ah.
Et alors grâce à ces buffles, donc, Srinivas Gowda a réalisé une performance exceptionnelle. Parce qu'en fait, ça fait que si on rapportait la distance à 100 mètres, Gowda aurait couru 100 mètres en 9,55.
Ah.
Soit 3 centièmes de moins que la foudre jamaïcaine Usain Bolt. Non mais c'est hallucinant, enfin voilà. Alors après, comme le dit le champion indien, le mérite revient surtout au bœuf.
Au bœuf
qui le tracte, bien sûr. D'ailleurs, le ministre des Sports du gouvernement indien lui a carrément proposé un accompagnement pour l'aider à s'entraîner en vue d'une éventuelle qualif pour les JO de Tokyo. Mais Srinivas Gowda a refusé, arguant qu'il était déjà engagé sur plusieurs autres Kambala et qu'il ne se voyait pas planter ses buffles comme ça. Alors, on comprend bien, n'empêche qu'on espère quand même qu'après ces obligations, on aura la chance de voir Srinivas Gowda courir seul sur une piste d'athlétisme.
Eh oui, c'est sûr, l'homme le plus rapide d'Inde. Ça donne envie d'en savoir plus, en effet. La suite, Joy.
Alors lui, en revanche, vous le connaissez. Enfin, vous connaissez son nom. Stan Smith.
Mm-hmm.
Easy. N'importe qui la connaît. Mm. La basket blanche. De la marque aux trois bandes, certes. Mais Stan Smith, ce n'est pas qu'une chaussure. Et le tennisman nous le rappelle ces jours derniers dans un spot de pub de la sneaker Super Stan, qui sera commercialisée la fin février. Et alors, ça commence avec un sympathique « Bonjour, je m'appelle Stan Smith ». Parce que donc, Stan Smith était avant tout un joueur de tennis américain au joli palmarès, quand même, un vainqueur de l'US Open en 71, de Wimbledon l'année suivante, de la Coupe Davis à 7 reprises avec les States. C'est pas rien. Mais le retraité de 73 ans s'amuse aujourd'hui de la situation et il dit « Les gens pensent que je suis une chaussure. Non mais c'est normal, sauf si vous êtes un historien, vous ne serez pas nécessairement à jour avec ma carrière. » Mais avoir mon nom sur une chaussure superstar est encore plus spécial. J'étais Stan Smith, la chaussure. Maintenant, je suis Super Stan. Voilà, donc un champion avec de l'humour. On aime.
Alors, gloire du sportif toujours, mais dans un autre genre, Joy.
Oui, tout à fait. La saison des carnavals bas sont pleins, et notamment en Italie, où mon chouchou, ça faisait longtemps, hein. Cristiano Ronaldo, aujourd'hui attaquant du club de la Juventus de Turin, a été mis à l'honneur. Donc, c'était sur un immense char à Viareggio, en Toscane, un char baptisé sobrement Idol, où l'on pouvait admirer un Ronaldo aux airs bioniques, à côté notamment de Greta Thunberg ou d'autres personnalités qui ont fait l'actu au cours de l'année. Moi, j'ai kiffé.
Bien sûr. Et pour finir, Joy, ton conseil culturel.
C'est waouh.
Carrément.
Ah ouais, de ouf. C'est une sublime bande dessinée qui est apparue chez Dupuis dans la collection Air Libre début février. Ça s'appelle La Flamme de Jorge González. Alors, en 1904, à Buenos Aires, dans le quartier d'Avellaneda, au moment où se négociait la construction du premier stade de football du club du Racing, naissait José María González, un futur grand joueur de ce club surnommé Llamarada, la flamme, à cause de la chevelure qui lui donnait une allure de fusée quand il courait derrière le ballon. Ce sont les premières lignes de ce qu'on appelle, dans le milieu, le communiqué de presse de l'album. Et c'est une parfaite introduction à l'histoire de Jorge González. Alors bien sûr, il n'y est pas question que de foot. Mais ce qu'il y a de fascinant, c'est que le ballon est ici vecteur de transition, de filiation, d'histoire, mais vraiment comme les mots ou le récit d'un pays et d'un peuple que l'on se passe, vous voyez, de génération en génération. Puis alors après, que dire de la beauté du trait, tout est magnifique de ce roman graphique. Mais je vous l'ai déjà dit, je crois.
Waouh, en effet, La Flamme de Jorge González, moi je le dis en européen. Un album vraiment extraordinaire, je l'ai aperçu sur mon bureau, ça a l'air magnifique. C'est aux éditions Dupuis. Merci beaucoup Joy, et à la semaine prochaine.
Je te le prête, Colin, promis.
Ok, salut.
Bye.
Et voilà, cette 25e émission de la saison 5 a été mise en onde ce soir par H2M, Henri, Marc Mutel. Merci Marco, assisté ce soir à la technique de Serge Viguier. Merci à lui, merci à toute l'équipe de L'œil du Tigre qui prépare cette émission avec moi. On vous retrouve évidemment sur les réseaux sociaux, Twitter et évidemment franceinter.fr pour catcher le podcast. On se retrouve dimanche prochain, on sera côté tribune, comme le titre de ce livre consacré à l'histoire des supporters en France de la belle époque aux années 30. Un récit passionnant et inédit sur la société française que viendront nous décortiquer deux historiens du sport. D'ici là, passez une excellente soirée, une excellente semaine sur Inter. Salut et fraternité.